Ami, bonsoir, il est 20h.
Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des...
Ça, j'y joue beaucoup.
Hashtag.
Déclic, le nouveau magazine des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue dans Déclic, le rendez-vous mensuel des amateurs d'expérimentation narrative. Depuis le début de l'année, nous avons beaucoup parlé de web documentaires, de jeux vidéo, de films interactifs, d'applications et autres artefacts numériques. Et bien aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de mettre à l'honneur le théâtre. Alors plus précisément une pièce de théâtre qui est quand même particulière comme vous le verrez, mais une pièce de théâtre tout de même, car le théâtre, même s'il peut paraître parfois de loin un peu poussiéreux de l'extérieur, et bien le théâtre évolue énormément, il change, il tente, il expérimente, et nous sommes heureux de vous le prouver ce soir. Alors le mois dernier, nous vous avions parlé de Philippe K. Dick et du cycle qui lui était consacré. On avait notamment reçu le scénariste du jeu vidéo Californium qui se déroule dans l'univers de Philippe K. Dick, ainsi que le réalisateur du court-métrage en réalité virtuelle, Aïe Philippe. L'émission est d'ailleurs toujours disponible en podcast sur la fiche de Radio Campus Paris, l'émission Déclic. Et nous allons rester ce mois-ci donc dans le domaine de la littérature, de la grande littérature même, puisque nous allons parler de Shakespeare et plus précisément de Richard III, actuellement mis en scène et interprété par Jean Lambertville, que nous recevrons donc aujourd'hui. Le fou se croit sage et le sage se reconnaît fou, disait William Shakespeare, et de la folie, il y en aura beaucoup dans cette émission. Pour ce qui est de la sagesse, je ne peux rien vous promettre. Déclic, épisode 7, Richard 3, 2, 1, c'est parti.
Qu'importe ce que le futur nous réserve, le futur choisit.
Déclic.
Nous recevons donc ce soir Jean Lambertville, homme de théâtre, metteur en scène, comédien. Il a failli rentrer dans la marine marchande dans sa jeunesse, mais finalement il a préféré Sénèque, Démocrite et Coltès à Joseph Conrad pour notre plus grand bonheur. Bonsoir Jean Lambertville.
Bonsoir.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et parler avec nos auditeurs de votre adaptation de Richard III, qu'on peut voir d'ailleurs à la Ferme du Bisson le 9 et le 10 avril en région parisienne, nous avons parlé d'abord un petit peu de votre œuvre et du travail que vous faites pour actualiser un petit peu quelque part le répertoire classique et le théâtre, et de la manière dont vous réinterrogez les textes classiques en plaçant notamment la figure de l'acteur au centre de votre réflexion. Alors d'où cette envie vous est venue en fait de ressortir un auteur classique comme Shakespeare aujourd'hui en 2016?
Non. On ressort pas, c'est Shakespeare. Shakespeare vous habite. Vous parlez de nouvelles écritures, moi je pense que rien n'est nouveau en fait, qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a simplement que des aspects de narration qui se réinventent continuellement en fonction des temporalités dans lesquelles nous nous trouvons et des espaces dans lesquels nous nous trouvons. Mais ce qu'il y a de bien avec Shakespeare, c'est que ce qu'il dit, ce qu'il nous donne à vivre, bien vous le vivez aussi. Donc Shakespeare est là, il n'y a pas besoin de le ressortir en fait. On ressort ceux qui ont été oubliés, Shakespeare n'a pas été oublié.
Et donc du coup, on voit que vous avez quand même eu tout au long de votre œuvre une certaine préoccupation pour intégrer notamment des nouvelles technologies un peu dans vos mises en scène. Est-ce que c'est pour justement donner un côté actuel ou c'est juste quelque chose qui vous paraît naturel parce que vous utilisez tous les éléments qui sont à votre disposition ?
À nouveau, je ne sais pas ce que veut dire le terme nouveau. Je pense que c'est vraiment une question qui est faite...
Bah, par exemple, on va dire que le théâtre est souvent... Enfin, on va dire qu'on peut avoir la vision de l'artiste sur scène, des personnes qui sont assises dans un public, qui regardent des personnes en train de faire quelque chose. Tous les metteurs en scène n'ont pas forcément la volonté d'utiliser la vidéo, d'avoir un dispositif qui l'accompagne.
D'abord, le théâtre, c'est une communauté de gens rassemblés. C'est-à-dire que c'est quand même le seul espace laïque hein, où vous avez une communauté de gens qui prend la décision de se regarder, de se réfléchir aux deux sens du terme. Donc, vous avez une communauté de spectateurs qui va rencontrer une communauté d'artistes, d'acteurs. Bon. Donc ça, c'est ça qui fait théâtre. Donc après, on peut faire théâtre avec pas grand-chose. Hein. On peut faire du théâtre avec du texte, on peut faire du théâtre avec de la voix. Mais le théâtre, et c'est sa grande puissance par rapport à toutes les évolutions technologiques,
c'est que lui, il est capable de tout absorber. Nous ne sommes pas un média, nous sommes un médium qui va interroger d'autres médias et voir quelles sont les forces médiumniques qu'il y a dans ces médias. Et nous sommes un art de la techné. La première fois que l'électricité arrive dans les villes, elle est tout de suite utilisée par les théâtreux. Hein. Mmh. Toutes les fantasmagories de Robertson et d'autres qui ont fait les premières apparitions fantomatiques furent utilisées au théâtre. Donc, toutes les évolutions importantes de la technologie, à un moment très vite, sont au théâtre, y compris la robotique, y compris la vidéo. Alors, c'est une antième que j'entends souvent que de me dire « oui, mais au théâtre, on n'utilise pas tout ça ». Je vais vous dire une chose. La première fois qu'il y a une relation entre l'image en mouvement et le théâtre dans une pièce, ça remonte, je crois que c'est en 1927, je ne suis pas sûr, c'est peut-être même 1923, c'est une pièce de Meyerhold à Moscou, vous voyez.
D'accord.
Donc, en fait, c'est une méconnaissance qu'on a. Donc, au théâtre...
Une préconception...
Oui, au théâtre... Le théâtre est le seul endroit de tous les possibles. C'est le seul endroit où vous pouvez associer du texte, du vivant, du numérique, de l'absence, des fantômes, des morts, et tout ça va communiquer ensemble. Donc, il n'y a aucun média qui permet de faire ça. Par exemple, le média Internet a des profondeurs, à des capacités temporelles différentes, mais il ne vous permet pas, toutes ces associations-là, c'est pas possible. Vous n'allez pas avoir un corps vivant et suant en face de vous, qui serait même peut-être traversé par des ondes de choc électronique.
D'accord, alors il y a effectivement... le théâtre a toutes ces possibilités-là, mais par exemple, puisque vous parlez d'Internet et des médias, avec les réseaux sociaux, on vit une époque qui est quand même marquée par quelque chose de très horizontal, de très participatif, et donc il y a vraiment cette volonté-là, de la part du public, d'être de plus en plus en interaction avec les œuvres, de participer, d'interagir.
C'est le théâtre qui l'a inventé, vous savez, ça s'appelle le rire, les pleurs et l'applaudissement. La participation du public au théâtre, elle est continuelle. C'est cette relation, on appelle ça, en fait, la catharsis. C'est un vieux truc, hein. C'est-à-dire c'est être en catharsis avec l'acteur. C'est-à-dire cette participation, elle est fondamentale. C'est la participation de cette joie qui fait le théâtre. Et vous savez, au théâtre, on peut même employer les réseaux sociaux, y compris faire sonner les portables pour créer de la musique, ce qui a été fait. Tout est possible. On n'a pas de limite. Donc, je pense, par exemple, que les réseaux sociaux ont une limite. C'est que si vous riez sur un réseau social, eh bien, vous allez rire tout seul. Au théâtre, vous allez avoir quelqu'un à votre côté qui rira ou ne rira pas.
D'accord. Donc, voilà, mais au-delà de la participation, qu'on va dire émotionnelle, des interactions subjectives qu'on peut avoir, est-ce que les dynamiques de co-création qui sont en train de s'installer beaucoup dans des dispositifs transmédia où on voit des auteurs solliciter le public pour compléter telle ou telle partie de l'histoire, est-ce que le théâtre peut finalement aussi arriver à reprendre avec autant de flexibilité cette possibilité de participation? Est-ce que vous en avez des exemples, par exemple, à donner?
Je pense que le théâtre est le contorsionniste le plus grand des arts. C'est pour ça que c'est le plus difficile. Oui, bien évidemment, on peut tout faire. Mais véritablement, et Marc René aux États-Unis, Robert Lepage, Joris Mathieu, qui est un Français, plein de metteurs en scène ont travaillé sur ça. Donc il y a pas, ils sont même parfois précurseurs de choses qui sont réutilisées. Étonnamment.
Alors, comment est-ce que dans une pièce, dans l'écriture d'une pièce, dans une mise en scène, comment est-ce qu'on peut associer le public à cette démarche-là?
Concrètement, ça dépend de ce que vous voulez dire, ça dépend de ce que vous voulez faire et ça dépend du sujet que vous voulez donner, ça dépend du sens politique de ce que vous voulez faire.
Par exemple, dans un dispositif transmédia qui a eu en cours actuellement autour d'une série, il y a certains, ou autour de Arte par exemple, qui sont en train de sortir Pigeons et Dragons et ils demandent par exemple aux internautes de dessiner en fait les traits du méchant et de façonner la personnalité. Est-ce que ça, c'est des choses qui...
Totalement possible, mais même pour nous, c'est un peu...
Vous connaissez des auteurs qui ont...
Je vais vous citer une pièce qui s'appelle Kildex, qui est une pièce dans laquelle jouait Caroline Carlson. Le décor était fait par Schoeffer et c'était Pierre-Henri, je crois, qui faisait la musique. Cette pièce était une pièce interactive avec le public où les gens avaient des cartons rouges, jaunes, machin, et votaient, demandaient qu'on arrête la pièce, qu'on l'accélère, qu'on change telle et telle dynamique, et on leur posait des questions, et c'était complètement dans cette interactivité-là. Et en fait, les gens construisaient la pièce autour d'un schéma, forcément, mais avec quand même des possibilités de liberté absolument colossales. C'est une pièce de 1970.
D'accord.
Voilà. Pour ceux qui le connaissent, intéressez-vous à Polieri, qui est un immense scénographe et qui a inventé les premières pièces de théâtre par téléconférence. C'était dans le cadre, je crois, de l'exposition universelle de Tokyo.
Une pièce de théâtre par téléconférence.
Oui, ben, c'était la première fois par satellite. Donc, il y avait des comédiens d'un côté, des comédiens de l'autre. Et c'était une pièce de théâtre par téléconférence. Mais à l'époque, on était en 1900, même pas 60. Et c'était
Un peu dans la mouvance de l'art télématique.
Voilà, etc. Ouais. Donc, les pièces pour télévision de Beckett, les opéras de Bob Ashley pour la télévision. Enfin, en fait... C'est l'inverse. Le théâtre invente, les autres récupèrent, et quand ils sont dans la passe, ils reviennent nous voir.
D'accord. Et donc, du coup, c'est... d'ailleurs, on a vu que vous avez, autour de votre mise en scène donc, de Richard III, vous avez également travaillé avec une équipe américaine, je crois, un laboratoire à Austin, c'est
oui,
ça
oui.
Ça, c'est le fait de travailler avec une équipe de scientifiques, d'ingénieurs, c'est aussi quelque chose qui se fait... Enfin, que vous faites naturellement ou c'était exceptionnel pour cette pièce-là ?
Nous avons avec mes camarades un laboratoire de recherche et d'égarement. C'est-à-dire que nous pensons que pour que de la dialectique existe, il faut de la raison et du chaos. Donc il faut organiser le chaos. Et donc parfois nous cherchons des choses qui peuvent sembler inutiles à tout le monde. Les vibrations... je ne sais pas, de la barbe à papa, etc., etc. Donc, je ne vais pas citer un milliard d'exemples. Je pense que si on va sur le site Lambertville des Associés, vous verrez pas mal d'exemples de tout ce qu'on a pu imaginer. Donc, oui, il est important, et c'est toute la force du théâtre, c'est que le théâtre est un endroit où on invite et où les gens peuvent se réunir et dialoguer. Et pas dans des petites chapelles. Donc, peut dialoguer avec nous le philosophe, peut dialoguer avec nous le scientifique, le chercheur, l'idiot fantastique, l'artiste contemporain, etc. Tout le monde peut dialoguer. Mmh. Et Shakespeare, il trouvera son compte. Hein.
D'accord. Alors effectivement, mais ça donc c'est un petit peu votre vision du théâtre.
Non,
dans les faits, si on va au théâtre aujourd'hui, en 95% des cas,
c'est pas vrai. Attendez, je veux bien que ma vision. Pourquoi penser que c'est ma vision ? Non, c'est pas parce que le théâtre a été parfois pris d'assaut par une par une bourgeoisie qui pense réinventer les codes de sa bourgeoisie là-dedans, que le théâtre, dans sa substance, n'est pas ça.
D'accord.
C'est ça, le théâtre.
Oui, oui.
C'est un espace de liberté et d'affrontement et de joie et de vie et d'invention et d'innovation et de tradition. C'est ce qui permet de comprendre que notre civilisation, ce que vous êtes et le discours que vous me tenez, est construit aussi par Sénèque, Eschyle, Shakespeare, Marivaux, Coltès, Lagarce, etc. Et c'est cette partie qui fait que de transmission en transmission, notre société arrive à s'entendre. Voilà, vous savez quoi ? Moins il y a de théâtre, plus il y a de barbarie.
Bah, du coup, c'est aussi pour ça que je suis content de vous recevoir, parce que vous avez donc cette pièce de théâtre Richard III. On peut suivre, ce que je trouve très intéressant, tout le processus de création qui a été assez long, je crois, sur Richard III. Mmh. Je ne sais pas combien de temps vous avez travaillé pour arriver à la mise en scène, si on peut vraiment découper le travail.
Alors, vous avez fait une erreur tout à l'heure, vous m'avez cité comme metteur en scène. Je ne suis pas metteur en scène.
Hein. Ah, pardon.
Donc,
pas de Richard III, mais vous
non,
avez...
mais même, généralement, je ne suis pas metteur en scène. C'est un titre qui ne me va pas, parce que je pense que c'est une notion obsolète de la vie théâtrale.
D'accord.
Et que le théâtre c'est pas ça, le théâtre c'est cette vision pyramidale du il y a un chef et puis tout ça c'est des conneries. La vérité c'est comment une communauté de gens justement va être capable avec ses compétences et ses incompétences de travailler ensemble et d'agir sur le réel. Donc c'est un spectacle que je co-signe avec Elodie Bordas, qui est ma camarade sur scène, avec Lorenzo Malaguara, Gérald Garuti, Stéphane Blanquet, qui est dessinateur et plasticien, et dont il y a une exposition actuellement à la ferme du Bichon dans le cadre du Festival Pulp, et que je conseille, hein, c'est à mon avis le plus grand plasticien actuellement en France, et Jean-Luc Terminarias. Donc, vous parlez des carnets de bord, par exemple. Rien de très nouveau. Rien de très nouveau. Avant, c'était une tradition naturelle de tenir un peu comme des explorateurs ou des navigateurs notre carnet de bord. Et nous avons les écrits de Jouvet, de Vitesse, de Villard. Voilà. C'est quoi la nuance ? C'est qu'aujourd'hui, ces carnets de bord, nous continuons à les écrire. Ce que peu font, en fait. Nous,
nous tenons à jour notre exploration de nous-mêmes et de l'œuvre que nous traversons. Mais effectivement, l'avantage d'Internet et l'avantage aussi de la relation que nous avons eue avec France 3 nous a offert un espace où nous pouvons offrir plus rapidement, dans une temporalité quasiment immédiate, cette relation. Mm-hmm. Ce qui fait que les carnets de bord qui ont été écrits
vous
sur...
Vous plusieurs médias aussi. Vous avez des vidéos que vous mettez un peu en scène. Enfin non, que vous ne mettez pas en scène. Que vous... Non, il y a un peu de contenu fictif, quoi, disons.
Ah, c'est pas fictif. Hein.
On a par exemple dans le carnet de bord numéro 2, une espèce de mise en scène où... une personne reçoit votre message vidéo, vous expliquez ce que vous êtes en train de faire et on vous voit en Angleterre revenir sur les traces de Richard III. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est mis en scène. Enfin,
non, c'est pas mis en scène, c'est monté. Mais si vous voulez, je suis suivi depuis 15 ans à mes dépens par un cinéaste qui s'appelle François Royer, qui a d'ailleurs fait un film et un documentaire qui s'appelle L'étoffe des rêves. Et le deal est simple. Le deal, c'est qu'il peut tout filmer. Donc, il filme tout. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas mise en scène. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de mise en scène. Après, il fait du montage, ce qui permet de comprendre dans la temporalité que, voilà, il dit ça et hop, on se retrouve en Angleterre. Mais on est vraiment allé en Angleterre avec ma mère, etc. Tout ce que vous me dites existe. Ce n'est pas de la mise en scène. D'accord. C'est simplement... un œil extérieur qui regarde avec toute liberté ce qui est en train de se faire et qui essaye d'expliquer comment une création se construit. Le documentaire de L'étoffe des rêves qui a été produit par France 3 Limousin et par Supermouche Productions est pour cela éloquent parce que il reprend, ça fait 15 ans qu'il me filme, vous imaginez ? Ça fait 15 ans que j'ai quelqu'un qui est derrière moi avec sa caméra.
Dans la dimension professionnelle.
Dimension professionnelle, mais enfin au-delà, parce que quand il me filme, je suis au travail, mais le travail, c'est ma vie. Donc, ouais. On me voit dans mes colères, dans mes peurs, dans mes machins. Et je l'ai accepté. Donc, il n'y a pas de mise en scène. C'est justement l'impact du théâtre. C'est l'impact du théâtre, c'est ça. On ne peut pas tricher avec soi-même au théâtre. Vous trichez à un moment, ça finit par se voir. Vous faites... vous êtes à la limite de vos capacités émotionnelles.
Et donc du coup, ce carnet de bord, c'est pour permettre de voir quel est le processus de création, les étapes et les doutes par lesquels vous passez, pour que le public
quand
puisse mieux comprendre
mer,
ou...
Non, mais quand on part en mer, il faut imaginer le théâtre comme un beau vaisseau où d'un coup, on réunit un équipage et on part vers des terres inconnues. Citez-moi un lieu au monde où vous avez une terra incognita, une sorte de boîte noire dans laquelle tout est possible, où vraiment un monde incroyable va pouvoir naître. Il n'en existe pas. Il n'y a pas de cette boîte en face de vous, physiquement, une sorte d'espace vide où tout va se construire. Et bah non.
Bah peut-être Place de la République en ce moment, où il y a une volonté de se réapproprier un espace public. On ne sait pas exactement où est-ce que ça va.
Non, on réinvente nos luttes, on réinvente la dissidence de nous-mêmes face au monde. Mais c'est pas vrai qu'on va réinventer. On va pas. Vous allez pas voir Place de la République. Je ne sais pas moi, Kildex dont je parlais, ou Le Regard d'un Sourd, ou La Mort d'Adam. C'est pas vrai. Vous pouvez pas réinventer un monde. Vous pouvez interroger le monde, mais vous pouvez pas le réinventer. Au théâtre, on peut réinventer le monde et on peut en donner une expression dans un nouveau langage. On invente un langage. Et ce langage va permettre de nourrir au quotidien votre façon justement d'expérimenter vous, vos émotions et le monde. C'est ça. Donc, c'est quoi les carnets de bord ? Eh bien, un bon capitaine doit tenir son carnet de bord et parler des étapes et les communiquer. C'est ce qui permet justement de garder une trace de cet éphémère que fut une création et de nous interroger toujours sur la substance de ce qui fait cet événement incroyable qu'à un moment... Il y en a un qui parle, il y en a un autre qui l'écoute, et dans ce jeu étrange entre un acteur et un spectateur va se jouer notre humanité.
D'accord. Et effectivement, moi je trouve que le fait de regarder les carnets de bord a un intérêt en soi, en fait, sans forcément le faire pour se préparer à aller voir un spectacle ou le faire dans une perspective. C'est en soi très intéressant de voir les différentes étapes de la création, les doutes, et un petit peu de désacraliser justement l'image qu'on peut avoir de la personne qui écrit toute seule derrière son bureau, alors qu'en fait non, c'est une personne qui va voyager, rencontrer des gens, se confronter à d'autres personnes, et donc du coup petit à petit voir un petit peu collectivement comment justement s'est construite cette pièce donc qu'on peut voir Richard III dont on va parler dans la deuxième
partie. Alors c'est Richard III, Loyauté Meulier.
Richard III, Loyauté Meulier, on reviendra justement sur le titre dans la deuxième partie. Juste avant, je vous propose de faire une petite pause musicale avec un morceau de So Cold qui s'intitule You Are Never Alone. Donc So Cold, c'est un rappeur canadien, l'inventeur du hip-hop klezmer, donc qui mélange les sonorités yiddish et celles du hip-hop.
C'est excellent.
Un mélange de classique et de moderne qui était donc particulièrement approprié pour notre invité du jour. On écoute ça tout de suite.
And frankly, there's nothing so unusual about being a Jewish cowboy.
On the trail to nowhere, all I have is a horse. Even he would leave if he broke free of this curse. All my God's memories, they aren't even mine. On the drive, wind wails till my song is blown away. Square.